Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, le Saint Livre, dans le premier livre des Rois, au chapitre 16. Nous allons faire une lecture du verset 29 au verset 33, après quoi nous irons au chapitre 17. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. On va ensemble au chapitre 17 et nous lisons Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit, fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. » Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Amen. Amen. Le contexte de ce passage, nous le connaissons. Il y a là un drame dans le pays d'Israël. Il y a là un roi impie, on l'a lu, qui a fait plus que tous les autres rois, non pas en bien mais en mal. Il y a là un contexte vraiment difficile dans lequel va émerger, si on pourrait dire ainsi, Élie, l'homme de Dieu. C'est un contexte difficile qui n'est pas trop éloigné du nôtre. Ce soir, on pourrait faire beaucoup de rapprochements, de parallèles entre le contexte historique, le contexte social dans lequel Élie était là. Élie se préparait dans le secret, on ne voit pas avant ce qu'il en était de cet homme, on le voit apparaître là, alors que ce roi était un roi idolâtre qui a emmené tout le peuple d'Israël à pécher. Un roi qui n'avait pas envie de suivre Dieu, nous l'avons lu. Une société, un peuple qui était là, une société qui ne voulait pas de Dieu. Une société qui était là plongée dans les ténèbres, une société qui allait être là comme dans la perdition si Élie n'était pas arrivé. Et Élie est là, nous l'avons lu, et on pourrait faire le rapprochement un peu plus tard entre ce chant que nous avons chanté, « Prends tout Seigneur » et la vie d'Élie. Parce que Élie ne va pas accepter ce qui se passe. Et bien sûr, c'est un texte que vous connaissez, vous avez sûrement médité ces passages. On peut facilement, aisément comprendre que nous qui sommes chrétiens, nous devons à l'image d'Élie, à l'image bien sûr de Jésus-Christ, parce que ce dont il est question ici, c'est de Jésus-Christ dans notre vie, nous ne pouvons pas accepter tout ce qui se fait ici-bas. C'est une évidence, c'est quelque chose qui doit être là, attaché à la vie chrétienne. C'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de notre vie dans le quotidien. Nous ne pouvons pas nous fondre dans la société. Nous ne pouvons pas être semblables aux autres parce que en nous, il y a l'esprit de vie. En nous, il y a l'esprit de vérité. Et quelquefois, cela doit nous amener à prendre position. Cela doit nous amener à faire la différence là où Dieu nous a placés. Et Élie arrive et dit au roi, voilà, ça ne peut plus continuer comme ça. Je paraphrase, mais c'est ce qu'il va dire. Élie est arrivé à un moment donné dans sa vie où il a compris que la vie chrétienne, que la marche chrétienne, c'était plus que certaines choses. Il arrivait à un moment donné dans sa vie où il se dit, mais là, ça ne peut pas continuer. Il faut que Dieu agisse. Et combien ce soir, alors qu'on a passé du temps dans la prière, peut-être que après une journée de travail, vous vous êtes dit, mais je vais venir prier. Après une journée qui a peut-être été difficile, vous êtes venu ou vous avez prié, ou chez vous, là où vous étiez, vous avez peut-être pris du temps pour prier, parce que il doit y avoir ce zèle, ce feu en nous. Ce quelque chose qui est là, qui émane directement du cœur de Dieu, qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu, qui fait nous dire, qui fait nous positionner en disant « mais ça ne peut plus continuer ». Quand bien même le monde est difficile, quand bien même le monde se perd, il y a encore un espoir, il y a encore la possibilité pour Dieu d'agir. Et c'est ce que Élie va faire. Et c'est à cela que nous devons aller, c'est dans ce chemin, dans ce travail que nous devons nous engager. Comme pour dire à tous les Acabs de ce monde, mais peut-être que toi, tu as choisi de marcher, de faire ta vie loin de Dieu, peut-être qu'il y a ceci ou cela dans la vie, mais moi, c'est certain, je veux suivre Dieu. Et Élie va aller plus loin parce que lorsqu'il va prononcer cette parole, lorsqu'il va dire, mais voilà, il n'y aura ni rosée, ni pluie, cela va l'engager personnellement parce que, comme vous vous imaginez, comme vous vous en doutez, et là il ne faut pas un diplôme en théologie pour dire cela, lorsqu'il va dire cette parole, il va être concerné parce que pour lui aussi, il ne va plus y avoir de pluie. Parce que pour lui aussi, il ne va plus y avoir de rosée. Parce que pour lui aussi, il va y avoir un combat. Élie aurait pu se dire, mais moi, je suis chrétien, je suis à l'abri, je suis du côté de Dieu, et c'est vrai, nous l'avons lu et on va le voir ensemble. C'est vrai que Dieu protège ses enfants, c'est vrai que nous sommes à l'abri, c'est vrai qu'en Jésus-Christ nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, c'est vrai que nous sommes mis à part pour lui, pour exercer en tant que souverain sacrificateur, ce dont Dieu nous appelle à proclamer la bonne nouvelle, à pouvoir exercer, placer des autels ici-bas sur terre, c'est vrai. Mais il y a un moment donné, je ne sais pas ce que vous en pensez, il faut aller plus loin avec le Seigneur. Il y a un moment donné, si nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer, il y a un moment donné, si nous voulons que le peuple qui est là, qui se fait avoir, qui se fait prendre par l'esprit de ce monde, puisse considérer que Jésus-Christ est la vérité, il y a un moment donné, excusez-moi l'expression, où il faut qu'on puisse se mouiller. Il faut qu'on puisse s'engager dans une vie, dans une marche profonde avec le Seigneur, où on a confiance, où on expérimente la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Élie aurait pu dire, mais voilà, pour toi, Acab, il n'y aura pas de pluie, mais pour moi, pour les chrétiens, ça va aller. Élie aurait pu faire d'autres prières, mais c'est celle-là, parce que c'était celle que Dieu lui avait dite de faire. Le chrétien n'est pas là pour juger le monde, le chrétien n'est pas là pour montrer du doigt, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour médire, pour être médisant, on est là pour apporter ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Le chrétien est là pour apporter ce message d'amour et le chrétien est là pour s'engager avec les autres, comme pour dire « mais voilà, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, ça va être difficile, mais il y aura une solution ». Parce que nous avons confiance et nous savons que Dieu ne peut pas se renier. Il y a une solution en Jésus-Christ. Et ce soir, alors qu'on est là ensemble, et c'est bien qu'on soit là. C'est bien qu'on ait mis ce temps de côté pour Dieu, pour voir ce que sa parole veut nous dire. Mais le combat n'est pas seulement ici, le combat est tous les jours, et vous le savez mieux que quiconque. Le combat est lorsque nous sommes au travail, le combat est lorsque nous sommes dans la rue, le combat est lorsque nous sommes confrontés aux autres qui sont là, en ennemis de Dieu, qui sont nos ennemis. Quel comportement allons-nous avoir? Quel comportement? Et c'est ainsi que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, comme pour proclamer l'amour de Jésus-Christ, comme pour proclamer ce que Dieu veut dire aux autres, parce que c'est ainsi qu'ils vont voir la différence dans notre vie. C'est ainsi qu'ils vont voir que, effectivement, quand bien même le contexte est difficile, il y a un Dieu véritable, il y a un Dieu qui est tout-puissant, et il y a un Dieu qui peut agir et intervenir dans les vies. Et après cet épisode, j'ai médité, vous savez, c'est un texte qui m'a parlé il y a quelque temps d'arrière, et qui est revenu sur mon cœur. Et lorsqu'on lit ce texte, on est quand même, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, ce que vous en pensez, mais lorsqu'on lit ce texte, on se dit, mais quand même, waouh, Élie arrive devant le roi, il prononce une parole de Dieu. Alors je ne sais pas comment vous pouvez l'imaginer, moi j'ai imaginé plein de choses, mais on se dit, mais après le Seigneur, il va lui dire, mais voilà, tu as dit ça, c'est bien, allez, je vais t'envoyer dans un autre lieu pour faire des miracles. C'est bien, maintenant je vais t'emmener, tu vas prendre une armée pour partir en guerre. C'est bien, tu as écouté, tu as été là devant le roi, maintenant il va y avoir une bénédiction, maintenant tu vas vivre ceci ou cela. Élie aurait pu vivre mille et une choses. Le chrétien est là lorsqu'on est confronté, lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu. Est-ce que on est sans cesse confronté à la bénédiction? Est-ce que notre vie, notre rôle, est-ce que notre marche chrétienne doit seulement s'installer dans une vie où on est là face au roi de ce monde comme pour proclamer la vérité et après quoi nous allons encore pour avoir toujours plus et toujours plus? Et lorsque nous lisons ce texte, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je pense que vous aussi, vous avez vu et perçu ce que Dieu voulait expérimenter, faire dans la vie d'Élie. Et je pense ce soir que c'est ce message que Dieu veut nous montrer à nous tous qui sommes là. C'est alors que nous faisons la volonté de Dieu, alors que nous tous qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, que nous sommes engagés, que nous soyons jeunes, tout neuf, engagé dans les eaux du baptême. Je dis ça pour Gaël qui est là, que nous ayons deux jours après le baptême, ou peut-être des années, il y a quand même une réalité, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, il est bon. Il est bon pour nous d'aller quelques instants, quelques moments au torrent de Kéritz. Il est bon pour nous de ne pas connaître seulement l'excellence, il est bon pour nous de ne pas seulement connaître les face-à-face avec les rois de ce monde, parce qu'il y a davantage à découvrir près du torrent de Kérit. Et c'est là où Dieu va envoyer Élie. Il ne va pas l'envoyer à d'autres rois, et je le répète. Il ne va pas y avoir pour Élie d'autres situations encore dans l'excellence spirituelle. Il ne va pas y avoir encore pour l'instant des victoires spirituelles. Il ne va pas y avoir d'autres chemins qui vont l'amener encore à expérimenter la puissance de Dieu. Ça, c'est pour après. Les miracles, ça sera pour après. La puissance de Dieu, ça sera pour après. Ce que Dieu veut faire dans la vie d'Élie, le summum, l'apogée, ça sera après. Et peut-être que dans la vie chrétienne, il y a des temps où on doit comprendre qu'il est bon pour nous d'être façonnés dans le secret de notre chambre, d'être façonnés au torrent de Kérit. Peut-être que nous, on désire, après avoir parlé, après avoir prononcé des paroles de Dieu, on dit, mais Seigneur, tu m'as préparé, voilà, j'ai dit des paroles d'autorité. Maintenant, montre-moi d'autres personnes, montre-moi d'autres choses pour que je puisse vivre encore et toujours plus. Mais le Seigneur est en train de nous dire ce soir, au travers de la vie d'Élie, peut-être qu'on n'est pas prêt. Peut-être qu'il faut qu'on expérimente davantage la présence, l'intimité de Dieu dans notre vie pour que nous puissions être façonnés comme lui le veut. Pour que nous soyons aptes pour la suite à avoir cette confiance inébranlable dans la parole de Dieu. Pour que nous soyons aptes par la suite à savoir entendre ce que Dieu veut nous dire dans notre vie, à être dirigés par Dieu et non pas selon nos propres pensées, selon notre propre intelligence, non pas par un désir de vengeance. Parce que Élie aurait pu être animé par un désir de vengeance. Élie aurait pu dire, mais voilà Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé, alors maintenant je vais aller me venger, je vais aller me venger pour ceci ou cela. Et c'est quelque chose qui peut être là dans notre vie chrétienne. Et c'est pas ça, on ne veut pas être rempli du Saint-Esprit pour nous, pour soi, pour dire « mais je suis rempli du Saint-Esprit ». On veut être rempli du Saint-Esprit parce que on sait que c'est des paroles de vie qui peuvent toucher les cœurs. On sait que lorsqu'on va parler aux uns aux autres, c'est pas nous qui allons toucher leur vie, c'est Dieu qui vit en nous. Et c'est cela qui doit façonner, rester, demeurer dans notre existence. Dieu va lui dire, voilà, Élie, tu as bien parlé, c'est bien, tu as été obéissant, et c'est bien d'être obéissant, mais maintenant, pour toi, c'est le moment de partir, c'est le moment d'aller te cacher. C'est pas le moment de remporter les victoires, c'est pas le moment pour toi de vivre autre chose. Pour toi, c'est le moment d'être caché. C'est pour toi le moment d'aller au torrent de Kérit. Et c'est là où je veux en venir ce soir, c'est le torrent de Kérit. Et Kérit, on pourrait traduire ce mot, vous allez voir où je veux en venir, trancher. On pourrait traduire ce mot par couper, par retrancher, où il y a une autre signification, c'est tailler. Tailler. En d'autres termes, on pourrait dire que Élie, dans sa vie, pour pouvoir aller plus loin avec le Seigneur, on pourrait dire que le chrétien, à un moment donné dans sa vie, parce que c'est là le désir qu'il y a dans chacun de nos cœurs, et vous me voyez arriver, c'est de porter du fruit. Il y a un moment dans notre vie où on doit être émondé, où on doit être émondé, où on doit être coupé. Il y a un moment donné dans notre vie, et c'est là l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, et c'est là ce qui doit être attaché à notre âme, à notre vie, parce qu'on a été appelé pour des œuvres dans lesquelles Dieu nous attend, Dieu nous a préparé, des circonstances, Dieu a préparé des situations dans notre vie pour que nous puissions témoigner, des situations peut-être difficiles. Dieu a pu et peut préparer des situations difficiles pour qu'il puisse voir, observer comment est-ce que nous allons nous comporter face à l'adversité, face au danger, face au désert, pour qu'il puisse voir, et c'est ce qu'il va dire au peuple d'Israël, quelles sont les dispositions de notre cœur, quelle est la confiance que nous avons en Dieu. La vie chrétienne doit passer par le torrent de Kérit. Je pense que ce soir, nous sommes tous d'accord. Qui veut porter du fruit ? Tout le monde peut lever la main. Qui veut connaître des temps de miracles, des temps de rafraîchissement ? Tout le monde peut lever la main. Qui veut chanter, oui, comme une tour aux quatre vents, nous sommes protégés. Tout le monde lève la main. Mais qui veut chanter ce soir, prends tout, Seigneur. Parce que c'est cela qu'il y avait dans le cœur d'Élie. Qui veut chanter ? Qui peut chanter ce soir ? Oui, Seigneur, prends tout. Prends tout, prends ce qu'il y a dans ma vie. Émonde-moi, Seigneur. Émonde-moi, parce que je veux porter encore plus de fruits. Parce que je veux, peut-être pour certains, je veux porter du fruit. C'est là mon désir. Je veux être protégé par toi. Merci Seigneur, on voit la délicatesse de Dieu. On voit comment Dieu a pris soin d'Élie. Parce que Élie était comme tout le monde. Élie était privé de pluie, de rosée, mais pas au niveau spirituel. Et on peut être dans un monde qui est semblable à un désert, mais le chrétien porte en lui toujours la rosée du ciel. On peut être dans des situations difficiles, mais le chrétien est toujours rafraîchi par Dieu. Peut-être tu vis des moments difficiles, peut-être c'est compliqué pour toi dans ta vie, peut-être que tu as été face à des Akab, et ça ne s'est pas passé comme Élie. Peut-être que tu as été face à des Akab qui ont pris le dessus sur toi dans ta vie, et tu es là brisé, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'il y a eu des événements qui t'ont blessé, qui t'ont découragé, qui t'ont meurtri à l'intérieur de toi, et peut-être ce soir tu dis, mais j'ai même plus cette rosée du ciel, j'ai même plus ce rafraîchissement. Mais je pense que s'il y a un temps où la rosée est arrêtée, s'il y a un temps où peut-être c'est compliqué, il y a encore de l'espoir et de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a encore un temps possible où Dieu veut répandre son esprit, Dieu veut répandre sa bénédiction, Dieu veut répondre à tes prières, Dieu veut te combler dans ta vie personnelle, intime. Dieu est capable de ça. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter peut-être d'aller et de faire un détour auprès du torrent de Kérit? Est-ce qu'on est prêt à accepter? Peut-être que Dieu nous émonde, peut-être que Dieu coupe certaines branches dans notre vie afin que la sève, l'Esprit de Dieu soit utilisé d'une manière puissante et efficace dans notre vie. Ou est-ce qu'il y a certaines branches qui sont là, qui prennent toutes nos forces? Est-ce qu'il y a certaines branches dans notre vie qui sont là, qui nous épuisent petit à petit jusqu'à ce qu'on soit comme asséchés spirituellement? C'est là une question, on peut lire, si vous le voulez bien, dans Jean chapitre 15. C'est les premiers versets, c'est un texte que vous connaissez parfaitement. Il est écrit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse. » Au verset 7, il est écrit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. » Il y a une promesse qui est rattachée à ce texte. Il y a une ligne directive. Et bien sûr, ça fait souffrir d'être émondé. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Agréable pour la chair, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose avec lequel nous pouvons peut-être être à l'aise, grandement à l'aise. Peut-être que certains peuvent dire « mais je suis fatigué, je suis épuisé ». Peut-être que certains veulent dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit passer par là? Parce que c'est ainsi, parce que c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut porter du fruit, si quelqu'un veut, il y a un moment donné où on doit être émondé. Et la signification de émondé, c'est quelque chose qui est très parlant, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude de jardiner, qui sont à l'aise, Monsieur de Dieu le sait, c'est pour permettre aux branches, aux plants de prendre plus de vie, mais le verbe, le mot est utilisé dans la parole à d'autres significations et on pourrait traduire émondé par libéré de désirs corrompus, libéré du péché. On pourrait traduire émondé dans le texte et faire le rapprochement avec Élie. On pourrait dire, mais libéré de la culpabilité, libre de tout mélange, libre de tout reproche. Le torrent de Kérit, c'est un endroit qui peut être difficile pour certains. C'est un endroit où, finalement, on ne peut pas se baser sur nous, on ne peut pas compter sur nos capacités. C'est un endroit où face à nous-mêmes, on est obligé de reconnaître que nous ne sommes rien sans Dieu. C'est un endroit où on est obligé de reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est un endroit où on doit couper avec le péché. Et ça, je pense qu'on est au clair. Mais c'est un endroit où on doit couper avec le mélange, tout ce qui vient se rajouter avec la parole de Dieu. Le torrent de Kérit, c'est un passage obligé dans la vie chrétienne. Parce que c'est là où nous sommes épurés, c'est là où vraiment nous sommes mis à part, où la sainteté de Dieu prend tout son effet, tout son essor, où la sanctification est là et comme agissante dans notre vie. Le torrent de Kérit, c'est là où la culpabilité est enlevée. C'est là où tout ce que nous n'avons pas pu faire, tout ce qui était là dans notre vie qui nous accable, tout ce qui était là dans notre vie que nous portions avec nous dans un sac à dos les paroles des uns des autres, les paroles méchantes, blessantes, les paroles qui nous ont amoindris, les situations dans notre existence qui nous ont marqués, blessés, comme écrites au fer rouge, c'est là au torrent de Kérit où Dieu veut les enlever. Les situations dans notre vie où on pensait que ça allait aller, on pensait qu'il y avait de l'espoir et on a vu, peut-être qu'on a été déçu, peut-être que ce n'était pas le temps de Dieu, mais le torrent de Kérit, c'est là où Dieu veut dire « Mais je ne t'ai pas oublié, il y a encore de l'espoir, il y a encore une possibilité pour toi dans ta vie, il y a encore une possibilité de voir des bénédictions ». Ça peut être contradictoire, parce qu'il n'y avait rien au torrent de Kérit. Il n'y avait rien. Élie était là, vous savez, il aurait pu dire, mais Seigneur, quand même, l'histoire des corbeaux, je ne sais pas trop. Quand même, que des corbeaux viennent me nourrir, Seigneur, j'aurais préféré autre chose. Seigneur, boire l'eau du torrent, d'accord, mais je ne sais pas, j'aurais préféré autre chose. Et quelquefois, on veut discuter. Quelquefois, on veut discuter les projets de Dieu pour nos vies, on veut discuter les plans, on veut discuter les chemins par lesquels Dieu nous fait passer, on veut discuter quand c'est difficile. Quelque temps avant, Élie était au palais du roi, il parlait à Akab. Les temps d'après, il était au bord du torrent. Quelque temps d'avant, peut-être que spirituellement, tout allait bien. Quelque temps avant, peut-être qu'il y avait là une relation particulière, que tu avais commencé avec le Seigneur. Il y avait une intimité, tu pouvais recevoir ses paroles. Dieu te parlait. Quelque temps d'après, tu te retrouves là, au bord d'un torrent. Quelque temps d'après, Dieu veut t'amener plus loin. Quelque temps d'après, Dieu veut t'amener à chanter ce chant « Oui, prends tout ». D'une manière profonde, d'une manière sincère. Où tu veux comprendre, tu veux expérimenter que Dieu est tout pour toi dans ta vie. Et c'est là où Dieu veut nous amener, mon frère, ma sœur. Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens tristes, accablés, qu'on vive dans la douleur, qu'on vive dans la souffrance sans cesse et qu'on vit mal les choses, qu'on soit là, qu'on n'ait plus d'espérance, plus d'espoir, plus de joie. Dieu veut nous amener à remporter des victoires. Dieu veut nous amener à considérer qu'il est tout-puissant, qu'il peut ordonner au corbeau. Pour l'époque, vous savez, le corbeau, c'était pas un animal qui était considéré, un oiseau, pardon, qui était considéré comme pur. C'était pas les préférés. Quand on voyait un corbeau, on n'était pas content à l'époque. Aujourd'hui, vous allez me dire, c'est un peu pareil. Mais on n'était pas content. Pourtant, c'était pas le corbeau qui était là qui faisait la différence. Lorsqu'Élie était au bord du torrent, il devait comprendre une seule chose, c'était que la solution, c'était lorsqu'il regardait en haut. La solution, ce n'était pas de regarder les cailloux près du torrent. La solution, ce n'est pas de regarder les problèmes. La solution, ce n'est pas de ressasser sans cesse dans ton esprit ce qui ne va pas. Ce n'est pas sans cesse de voir les échecs, les déceptions qu'il y a eu dans ta vie. La solution, c'est de regarder en haut. La solution, c'est d'attendre cette nourriture céleste. La solution, et c'est ce que Élie a expérimenté, c'est d'avoir confiance, une foi inébranlable dans la parole de Dieu. Cette parole qui dit « mais je vais te nourrir jour après jour ». Cette parole qui dit « mais peu importe l'environnement, peu importe ce que tu peux vivre, peu importe ce que tu peux ressentir, peu importe tes impressions, tes sensations, peu importe ton humeur, peu importe ton état d'esprit, peu importe tout ça, Jésus est le même. La parole de Dieu est le même. La puissance de Dieu n'a pas changé. L'amour de Dieu n'a pas changé. Du premier jour de la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui, l'amour de Dieu n'a pas changé. Lorsque tu t'es converti, lorsque tu as fait tes premières expériences avec Dieu jusqu'à maintenant, où il semblerait que tu ne ressentes plus rien, l'amour de Dieu n'a pas changé pour ta vie. Du premier jour où tu as ressenti son amour, où tu as été peut-être rempli du Saint-Esprit, où tu as senti d'une manière profonde que Dieu t'aimait, jusqu'au moment aujourd'hui où peut-être tu verses des larmes parce que tu ne vois pas encore l'aboutissement dans ta vie. L'amour de Dieu n'a pas changé pour toi. Le torrent de Kérit, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il y a une bénédiction après. Il y a une bénédiction après. Et on doit, mon frère, ma sœur, on doit s'appuyer sur le Seigneur. On doit s'appuyer dans les temps que nous vivons. On doit s'appuyer sur ce que Dieu dit. On doit s'appuyer sur ses promesses. On doit s'appuyer sur son amour. On doit s'appuyer sur sa fidélité. Il ne s'agit pas d'Élie dans ce texte. Dieu n'a pas dit à Élie, mais voilà, si tu passes 4 heures dans la prière, je t'amènerai à manger. Dieu n'a pas dit à Élie, mais voilà, si tu marches pendant 4 heures dans long en large auprès du torrent, si tu fais des efforts, alors tu vas avoir à manger. Dieu aurait pu le dire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un homme comme ça dans la parole de Dieu qui aurait aimé que ça soit difficile, faire des efforts pour avoir la bénédiction. Quelquefois on essaye, on se dit, mais si je fais ça, Dieu va m'aimer, va me préférer, il va y avoir ceci ou cela, ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu. Et je ne sais pas ce que vous en pensez ce soir, mais on sait que Dieu, lui, ne change pas. Normalement, il y avait un amen là. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et Dieu n'est pas pris de court. Dieu n'est pas pris de court. Lorsque le torrent va être à sec, Dieu ne va pas dire à Élie, « Ah là là, j'avais pas prévu ça. Ah là là, comment on va faire ?» Dieu avait tout prévu. Parce qu'il y a un moment où c'est normal. Ça peut être normal. Il y a un moment où le torrent est à sec parce qu'il n'y avait plus de pluie. Mais le chrétien, lui, il n'est pas attaché. Il n'est pas affaibli. Il n'est pas surpris par les changements de circonstances, les changements de l'environnement. Le chrétien, lui, ce qui l'intéresse, mon frère, ma sœur, ce qui nous intéresse, ce qui t'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est de savoir entendre la voix de Dieu. Cette voix qui va dire, au bon moment, lorsque le temps de Dieu sera arrivé, le temps de Dieu, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas l'anticiper. Mais il y a quand même des temps de Dieu. Et il arrive un moment donné où Dieu va dire, mais lève-toi. Il y a un moment donné où après être émondé, il y a un moment donné après ça, il y a un moment où on veut se lever, on va se lever. Il y a un moment donné où on se lève pour faire ce que Dieu nous demande. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous connaissez la vie d'Élie. Il a quand même vécu de belles choses avec le Seigneur. Il a vu des belles choses, il a vu des miracles, il a vu des choses extraordinaires. Et je ne sais pas, moi je pense qu'on peut vivre aussi des choses extraordinaires. On peut expérimenter la parole de Dieu, la voix de Dieu qui nous parle. Le torrent a été à sec et Élie va se lever à la parole de Dieu. Vous savez, je méditais vraiment sur ce texte. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il y a des chrétiens, peut-être qu'il y a des personnes qui ont passé un certain temps au torrent de Kérit, qui ont passé un certain temps dans la difficulté, qui ont dû être émondées, qui ont dû être façonnées, qui ont dû être préparées par le Seigneur, parce qu'il y a autre chose, parce que Dieu veut nous utiliser, parce qu'il y a tant à faire pour l'œuvre de Dieu. Et le danger, c'est alors que on est là au torrent de Kérit. Le danger, c'est quand Dieu nous dit « lève-toi », c'est qu'on ne se lève pas. Le danger, vraiment, j'avais cette pensée pour quelqu'un. Vraiment, c'était là sur mon cœur. Parce que lorsque Dieu nous dit « lève-toi », c'est qu'il a tout prévu, c'est qu'il a autre chose pour nous. Et peut-être que là, dans ta vie, toi, tu n'as pas voulu te lever parce que ça a été trop difficile. Peut-être que tu as baissé les bras. Peut-être que les épreuves ont eu peut-être raison de toi, dans le sens où tu as perdu le regard tu n'as plus regardé le ciel, mais à force de regarder les cailloux, la foi vient de ce qu'on entend. Et si on n'entend plus la parole de Dieu, si on n'entend plus Dieu nous parler, si on se dirige vers le monde, on a la foi du monde. Mais peut-être que là, ce soir, c'est un moment, c'est un temps où on se dit, mais c'est vrai, Dieu me dit, mais lève-toi. On ne doit pas passer notre vie à côté d'un torrent sec. On n'est pas appelé à vivre dans la sécheresse. Il peut y avoir des temps difficiles, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Jésus a dit, mais il y aura des fleuves d'eau vive. Il y aura des fleuves. Il n'y aura pas des torrents à sec. Il y aura des fleuves. Et on peut vivre ça. On peut vivre ces torrents qui nous remplissent, qui viennent inonder notre vie. On peut vivre des temps de rafraîchissement. On peut vivre ce que nos pères dans la foi ont vécu. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'entends Monsieur de Dieu raconter ce qu'il vivait, il n'y a pas si longtemps, j'allais pas dire il y a longtemps, ce qu'il vivait, mais il y a quand même quelque chose au fond, dans notre cœur, qui doit dire, mais on peut vivre ces choses. On peut vivre. Il y a encore des fleuves, il y a encore la vie de l'Esprit, il y a encore la présence de Dieu, il y a encore Christ qui est là. Jésus est encore là, Jésus n'a pas abandonné son Église et Jésus n'abandonnera jamais son Église. Parce que lorsqu'il va revenir, c'est pour prendre son Église. Mais nous, en attendant, est-ce que nous allons nous lamenter? Est-ce que nous allons nous contenter d'un torrent sec en disant « Ah, mais Seigneur, oui, avant tu as fait ça, mais maintenant c'est plus possible » Ou est-ce que nous allons répondre à la suite, à l'après, après le torrent Kérit, « Tiens, mais lève-toi, lève-toi, va à Sarepta, lève-toi parce que là-bas il y a une mission, lève-toi parce que peut-être dans ton immeuble il y a des personnes à évangéliser, lève-toi parce que peut-être ton voisin de palier, peut-être les étudiants, peut-être à ton travail, peut-être les personnes que tu croises, lève-toi parce que peut-être dans ta famille il y a des personnes qui mille fois t'ont rejeté. Peut-être mille fois t'ont dit « Ne m'embête pas, je ne veux pas écouter Jésus-Christ, je ne veux pas écouter ta foi. » Mais peut-être que à mille et une fois vont dire oui, mille et deux fois, il va y avoir la vie de Jésus qui va se manifester. Parce qu'après, après être émondé, mais il y a le fruit. Après être passé par ce torrent, après avoir été coupé, après avoir été là, comme façonné, c'est le temps du fruit. Et pour reprendre ce texte de la parole qui nous a été tant parlé, dans lequel nous nous sommes tellement reconnus, après la mort du grain de blé, mais il y a la vie, il y a la semence, il y a le fruit. Après que peut-être il y a un temps difficile pour toi, il y a d'autres choses, il y a d'autres perspectives à envisager avec le Seigneur et le danger. Et je suis persuadé que c'est pour quelqu'un, ce soir, le danger, c'est de se dire, mais je m'arrête là, je me contente d'un torrent à sec, d'un torrent qui a flétri d'une vie pauvre spirituellement, parce que je baisse les bras. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager, vous encourager, m'encourager en disant, mais Dieu veut qu'on puisse vivre des choses, des temps de bénédiction. Il faut se lever. Il faut aller à Sarepta. Sarepta, la traduction, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. On pourrait traduire ce lieu par lieu du fondeur, lieu de l'orfèvre, un lieu où l'or est travaillé, un lieu où, et on pourrait, l'autre traduction, et qui peut-être vous parle ce soir, c'est un lieu éprouvé, où on est éprouvé, mais pas éprouvé dans peut-être le sens négatif, un lieu où notre foi est éprouvée. Un lieu, on pourrait le traduire comme ça peut-être, un lieu où nous allons pouvoir manifester notre foi. Un lieu, il y a des lieux, il y a des temps, il y a des lieux, il y a des moments dans ta vie, il y a des périodes où tu peux et où tu dois manifester ta foi. Des temps où tu vas pouvoir expérimenter la vie de l'Esprit. Peut-être que quelqu'un cherche le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que cette personne est là, triste, désolée, en disant « Mais je prie, rien ne se passe. » Mais il y a un temps où la foi peut se manifester. Il y a un temps où les personnes pour lesquelles nous prions, il y a un temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, sinon on arrête de prier. Si les personnes ne vont pas se convertir, si les malades ne vont pas guérir, si des personnes ne vont pas franchir ces portes pour rechercher la vérité, si on n'attend pas ça, si on n'espère pas ça, si on n'espère pas dans notre vie manifester la foi, manifester notre confiance en Dieu, mais alors on s'arrête. Mais je pense que ce soir, on a tous envie. On aspire tous à des temps où on voit Jésus-Christ se manifester, on voit des choses extraordinaires se passer dans notre vie, dans notre existence. Il y a ce verset que j'ai noté, c'est un verset qu'on connaît. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La louange, la gloire et l'honneur. Il y a un temps, mon frère, ma sœur, où nous pouvons expérimenter ces choses. Ne baissons pas les bras, ne pensons pas que c'est fini, ne pensons pas que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a mis de côté, ne pensons pas que notre vie est ainsi et c'est écrit comme ça, non. Non, je pense que il faut toujours et continuer à avoir foi et confiance dans notre Dieu. Éprouver, ça veut dire, on pourrait traduire comme ça, je l'ai noté, passer un test avec succès. Le torrent de Kérit a façonné Élie, je vais bientôt terminer. Et Sarepta, ça va être le lieu, l'application, l'endroit où, on pourrait le traduire comme ça, la lumière du Nouveau Testament, où le disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple, nous dit Luc 6, 40, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il y a un moment où nous pouvons vivre. Et je le répète parce que, je ne sais pas, j'insiste, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre, peut-être que quelqu'un a besoin d'être encouragé, mais on peut vivre des temps où nos prières sont exaucées, on peut vivre des temps. Je racontais ce témoignage peut-être à la jeunesse, je ne sais plus, ou peut-être je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a quelque temps en arrière, un chrétien, lorsqu'on est allé avec Monsieur de Dieu à l'église de Pamiers, le chantre racontait ce témoignage qu'un frère dans l'église était là, inscrit au Pôle emploi, et il avait son entretien, comme ça devait se passer. Et alors qu'il va dans le bureau avec cette personne faire l'entretien, il commence à parler, et dans son cœur, il ressent, il a cette conviction que la personne en face de lui pense à la mort, a envie de se suicider. Alors le chrétien dit à l'autre, mais depuis combien de temps est-ce que vous pensez à la mort? Et la personne qui était là, le conseiller, se met à s'effondre en larmes. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, on peut le vivre. On peut être utilisé là où Dieu nous place, pour pouvoir propager la vie de Christ, pour pouvoir aller partager cette bonne nouvelle, pour pouvoir proclamer que peu importe ce qui se passe, peu importe l'environnement, Jésus-Christ n'a pas changé. Peut-être hier c'était vrai, peut-être avant-hier oui, mais aujourd'hui non, aujourd'hui il n'a pas changé, il est le même. Et je pense qu'on est tous appelés à vivre des temps, des moments où Dieu va nous parler, d'aller voir telle et telle personne. Dieu va nous amener à prier pour les uns les autres et voir nos prières s'accomplir. Je terminerai juste avec ce texte, parce que Élie, et on n'a pas pu tout voir, vous vous doutez bien, mais Élie, par la suite, a été radicalement changé par cet épisode au torrent de Kérit. La vie d'Élie, la vie de cet homme de Dieu, a été complètement bouleversé. Il va y avoir une autorité dans sa vie. il va y avoir une assurance, il va y avoir une confiance dans son Dieu. Et il y a eu des épisodes qui vont vraiment placer cela. Et avant de lire ce verset, j'aimerais juste vous dire la réaction du monde face à Élie. Parce que cette réaction du monde, c'est une réaction que peut-être nous tous, nous pouvons être confrontés. Mais ce n'est pas pour ça que le monde a raison. C'est 1 Roi, chapitre 18, verset 17. Il est écrit « À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, et regardez ce que le roi va lui dire, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le roi impie, qui va voir Élie, l'homme de Dieu, et qui lui dit « Mais c'est toi qui es en train de troubler le pays. » Et ça, c'est vraiment l'esprit de ce monde. Et si j'ai noté ça, j'ai pensé, alors qu'on faisait les chants, on chantait ces chants, si je dis ça, c'est parce que le monde voudra toujours essayer de pointer le doigt vers les chrétiens en disant « Mais c'est vous qui nous troublez. C'est vous qui nous empêchez d'être libres. C'est vous qui dites ceci ou cela. Nous, on connaît la liberté. Nous, on connaît la joie. Nous, on connaît le bonheur. C'est vous qui nous troublez. » Mais ce n'est pas ainsi. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas aux chrétiens à s'aligner au monde. On le sait, mais je le rappelle. Parce que c'est le discours du monde de dire mais c'est les chrétiens qui nous troublent. Nous, on est tranquilles. Nous, on est idolâtres. Nous, on est dans le péché, bien sûr. Il ne peut pas y avoir de lien entre les ténèbres et la lumière. Bien sûr, le monde voudra toujours nous convaincre que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Bien sûr, le monde voudra toujours nous dire « Mais allez-y, souillez-vous, allez-y, faites ceci ou cela. » Mais nous, on sait, et on ne doit pas perdre de vue cela, c'est que la vérité est en Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ, et nous vivons dans la vérité si nous demeurons attachés à Jésus. Ce n'est pas à nous à changer, ce n'est pas à nous à baisser notre niveau spirituel, c'est pas à nous à laisser la parole de côté pour s'attirer la sympathie du monde, ce n'est pas à nous à baisser, mais c'est au monde à venir. C'est les autres qui doivent s'accorder à nous, et je terminerai en lisant ce texte, parce que la vie d'Élie a été quand même marquée, et Élie va dire, c'est 1 Roi 18, verset 21, il va s'adresser au peuple. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Il y a des temps difficiles, il y a des temps où on peut se poser des questions. Il y a des temps qui sont peut-être compliqués, mais il y a aussi des temps où Dieu nous marque, où Dieu nous enseigne, où Dieu nous parle. Et je pense, moi je suis convaincu que ce qu'a vécu Élie au torrent de Kérig, ça a eu un impact extraordinaire dans sa vie, dans sa piété, dans sa confiance. Élie n'était pas là pour faire, dans les sentiments, si je puis m'exprimer ainsi, Élie n'était pas là pour accorder le peuple, il n'était pas là pour trouver un compromis. Élie était là pour annoncer la vérité. Élie savait, et c'est ce que Josué pourra dire aussi, a pu dire, « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je pourrais chanter ce chant, « Prends tout Seigneur, parce que je sais en qui j'ai cru. » Moi, je ne veux pas m'accorder, je ne veux pas baisser, je ne veux pas laisser ma piété, ma vie spirituelle, mais je sais que ma vie est en Dieu et je veux tout faire pour y aller. » Amen. On peut prier un instant, si vous le voulez bien. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ta présence dans ce lieu. Nous avons cette assurance que tu es ici, présent, parce que, Seigneur, tu ne peux pas mentir. Seigneur, si tu es là, c'est parce que tu veux nous enseigner, tu veux parler à nos cœurs. Tu veux peut-être faire du bien à quelqu'un, Père, ce soir. Peut-être à une personne qui a été découragée, peut-être une personne qui a été épuisée, affaiblie, qui a été prise dans la souffrance. Père, je crois et je sais que tu peux relever. Je crois que ce soir, tu veux encourager. Peut-être que tu veux dire à quelqu'un, mais lève-toi, c'est plus le temps. C'est plus le temps où on doit rester près du torrent à sécher. C'est un temps où on doit expérimenter notre foi. Peut-être que tu veux parler à quelqu'un qui a laissé sa vie spirituelle, sa piété de côté, la lecture de ta parole, Père. Oui, ce soir, je crois, nous croyons que tu es celui qui rétablit, que tu es celui qui restaure les cœurs, que tu es celui qui rappelle ton amour, tu es celui qui nous prend par la main pour nous conduire, comme tu as su pourvoir aux besoins d'Élie, tu es celui qui jour après jour vient, nous donne cette nourriture dont nous avons besoin et nous te bénissons. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as prévu, pour tout ce que tu fais, tes projets sont parfaits, nous ne voulons pas les discuter, mais nous voulons être dans l'obéissance, nous voulons vivre des temps bénis, des temps où nous voyons ta parole s'accomplir. Nous voulons vivre des temps où nous voyons ta main, Seigneur, agir dans nos familles, dans ceux qui sont malades, Père, dans ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont liés. Nous proclamons que Jésus-Christ est la solution. Nous proclamons que tout est possible en toi, mon Dieu. Sois béni pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.